Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour cet échange autour d'un livre assez singulier qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'à leurs parents et à toute la sphère éducative. Il s'agit du manuel d'éveil olfactif pour petits et grands qui a été écrit par un collectif faisant partie de l'association Le Nez en Herbe. Autour de moi, avec moi, Clémentine Humeau, Félicie Caudron et Patty Canac. Pardon. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Merci d'être venue parler avec nous de cet ouvrage dont vous êtes contributrice. Alors avant d'en parler plus spécifiquement et peut-être aussi de parler de cette association, je me disais que vous pourriez peut-être vous présenter, commencer par vous Clémentine, et nous dire ce que vous faites comme métier dans la vie.
Alors comme métier, je suis créateur parfumeur. On dit aussi être né. N-E-Z, ce qui est un mot assez moche pour définir mon savoir-faire. Oui, j'utilise mon nez et pour créer des parfums et pour créer de l'émotion avec les parfums. Donc, je crée face à un orgue à parfums et je crée pour les marques, pour les musées également, qui veulent créer des odeurs pour leur scénographie. Et mon temps, mes journées sont passées dans les odeurs à créer.
Alors moi, je suis un évaluateur, c'est à peu près comme l'œnologie en définitive. Je travaille avec des marques. Lorsque j'ai un brief, je respecte le brief et je travaille avec mes collègues parfumeurs pour avancer sur l'objectif final de la marque, c'est-à-dire le souhait olfactif. Et en dehors de cela, je suis également olfactothérapeute en cabinet et dans les hôpitaux.
Alors, je pense qu'on peut définir ce qu'est un olfactothérapeute.
Alors là, vous en avez deux, déjà d'olfactothérapeute. C'est la thérapie par les odeurs, c'est-à-dire par le biais de la respiration, que ce soit avec les huiles essentielles ou les odeurs, le monde des odeurs, on va pouvoir apporter un bien-être sur la sphère psycho-émotionnelle d'un individu.
Alors, moi, j'ai la double casquette parfumeur et olfactothérapeute. Donc, comme Clémentine, en fait, j'ai la partie parfumeur où je vais créer des odeurs, aussi bien, par exemple, pour des lieux, faire des signatures olfactives. Donc, ça peut être pour des magasins, des pôles santé. Ça peut être aussi pour des hôtels. Et puis après, j'ai créé il y a 5 ans un cabinet qui s'appelle le Bal des âmes. Dans ce cabinet, en fait, je suis dans un pôle santé. Là, alors c'est assez vaste parce que la thérapie olfactive, comme tu décrivais, ça englobe aussi bien la gestion émotionnelle, mais je vais aussi travailler, par exemple, sur des personnes qui vont avoir, par exemple, besoin d'un bénéfice, travailler, par exemple, sur la confiance en soi. Et en fait, je vais leur proposer d'aller à l'orgue à parfum, de sentir les matières, en fait, qui vont résonner, avoir une vibration positive par rapport à ce qu'ils recherchent. Ensuite, je vais créer leur parfum et je vais ensuite leur ancrer dans une séance d'olfacto-hypnose ou d'olfacto-ancrage, hein, pour pas employer des mots parfois qui sont un petit peu, qui peuvent faire un petit peu peur. Et en fait, ce parfum va être ressenti après et va sans arrêt en fait rappeler ce bénéfice émotionnel qui a été mis en place dans le subconscient. Et après, je fais aussi pas mal de rééducation, par exemple post-Covid, on en a beaucoup entendu parler, toute la symptologie en fait autour de l'odorat, donc que ça soit les hyperosmies, les hyposmies, c'est-à-dire quand on sent trop fort les odeurs ou pas assez fort, quand elles sont dégradées, mais ça peut être aussi l'anosmie, totale ou partielle, on peut ne plus sentir aucune odeur ou ne pas sentir certaines familles d'odeurs. Et donc c'est aussi ça le métier, de pouvoir se servir des odeurs ensuite dans la sphère des neuros, on va dire tout ce qui est la partie voilà, neurosciences. Donc je pense aux personnes qui vont avoir des maladies de Parkinson, d'Alzheimer, pouvoir en fait aider à booster le cognitif grâce en fait aux odeurs.
On y reviendra sur cette partie assez sous-estimée et méconnue en fait du pouvoir de l'odorat sur notre corps et notre santé émotionnelle. Mais on va peut-être revenir aussi sur cette association dont vous faites partie. Clémentine, si mes informations sont bonnes, vous êtes un peu à l'initiative de cette association parmi d'autres. Quelle est-elle et quelles sont les actions qu'elle mène aujourd'hui ?
Alors, je n'ai planté qu'une toute petite graine. Et cette graine, je l'ai plantée il y a 10 ans et à Bordeaux. À ce moment-là, je donnais une formation et c'était une de mes élèves me dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de cette formation ? Est-ce que je ne veux pas devenir parfumeur ? Moi, je travaille dans la politique. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de cette formation. » Et 6 mois après, elle me rappelle, elle me dit « Ça y est, Clémentine, j'ai trouvé. Je vais créer une association pour promouvoir l'éducation olfactive à l'éducation nationale. Roland Salès est de la partie, veux-tu en être ?» Génial, Roland Salès, un homme formidable, était aussi, faisait partie de l'équipe et de l'aventure. Et c'est comme ça que, l'aventure a commencé. Et à ce moment-là, donc il y a 10 ans, nous étions peu. Aujourd'hui, nous sommes 70. Donc, les petites graines font des fleurs, des champs, et notamment un gros bébé, ce manuel d'éveil olfactif. Nous avons commencé, et nous continuons d'ailleurs, par des animations d'éveil olfactif dans le groupe de crèches Cap Enfant, qui sont des crèches qui éveillent à la sensorialité. Quand on parle d'olfaction, on parle de sensation et de sensorialité. Et donc, les parfumeurs, dont moi, ont créé des odeurs pour ces bébés. Et nous avons les neurobiologistes de l'olfaction se sont déplacés pour voir comment les bébés, en sentant, avaient peut-être une appétence particulièrement variée pour goûter de la nourriture différente, déjà, pour se concentrer, pour mémoriser et également pour la linguistique, le langage. Comment le langage venait d'une manière plus fluide. Et de là, l'association Néon Herbe, on a fait énormément d'ateliers, tous, pour les crèches, les écoles, les primaires, les collèges également. Et de là est venue cette idée d'écrire ce manuel qui est un pionnier dans l'éducation sensorielle. On éduque nos yeux, on éduque nos oreilles, notre bouche, un peu du toucher et l'odorat, c'est le vilain petit canard. Ça l'a toujours été. Et nous sommes là pour, dans ce manuel, pour vraiment donner offrir cette prise de conscience que vous et moi, nous respirons là, toutes les deux, le même air. Ce que vous venez de rejeter, vous, je suis en train de le mettre dans mon corps. Et depuis que l'on est sorti du ventre de nos mères, nous respirons, nous sentons, je crois, 23 ou 24 000 fois par jour. Et 23 ou 24 000 fois par jour, il y a une multitude de petites molécules odorantes qui viennent à notre nez. Le monde est odorant 24 heures sur 24, mais nous n'en sommes pas conscients ni éduqués.
Alors, ce manuel, il est fait... en fait, c'est un mélange donc, de contributions, différents articles. Donc, l'association regroupe des gens comme vous qui avez un métier autour de l'odorat, mais aussi des philosophes, des historiens de l'odeur, des neuroscientifiques, des médecins. Et donc, en fait, dans le livre, il y a plusieurs entrées, plusieurs manières justement de découvrir l'odorat. Donc, pour tout néophyte, il y a plein de choses passionnantes à découvrir dedans, mais aussi donc des ateliers très pratiques comme ceux que vous pratiquez en classe. D'où l'idée que ce livre est en finalité pour les enfants, mais adapté aux familles, aux professionnels, aux enseignants, etc. Et du coup, enfin forcément, je me demandais, on l'a dit, l'odorat, c'est le vilain petit canard, et surtout, il n'y a pas d'éducation à l'odorat. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi ?
Tout dépend aussi, je pense, d'une culture. parce que dans un pays dit développé, l'odorat a été mis un peu de côté. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les filles. On a développé beaucoup plus la partie intellectuelle et donc la partie langage. Mais l'odorat est lié aussi à l'animalité, quelque part. Donc, il a été mis de côté, car quand on s'est redressé, on a développé le sens de la vue et de l'analyse. Je dois partir, je dois avancer, comment je calcule, que dois-je faire? L'odorat, c'est le sens même de l'invisible qui va vous permettre de jouer sur votre intuition, quelque part. Lorsque, moi, j'ai des personnes qui me disent « j'ai pas d'odorat », si on les laisse un peu parler, évoquer, on se rend compte qu'ils n'écoutent pas leur intuition non plus. C'est-à-dire que c'est un sens qui est effectivement invisible, mais qui va vous permettre d'encoder, de mémoriser tout un tas d'éléments de votre enfance jusqu'au dernier respire, puisque quand on quitte ici-bas, on le fait en quittant notre odorat pour rejoindre autre chose. Et même dans les Saintes Écritures, on parle toujours d'odorat. Hein. Il y a dans la Bible et toutes les autres Écritures, on a l'encens, on a tous les éléments qui démontrent que c'était le lien qui pouvait nous accompagner dans l'au-delà. Alors, c'est un nez qui se développe davantage dans des lieux, j'allais dire, comme l'Asie, comme tous ces lieux où le corps, l'âme, l'esprit sont encore vraiment ancrés dans ces continents, dans ces peuples. Et dès la plus jeune enfance, on apprend à goûter, on apprend à sentir, à respirer la pluie qui va arriver. Nous, quand on est dans un pays dit développé, c'est le genre d'éléments que on pratique pas dans le quotidien, à part si on est en pleine campagne et que l'on vit encore entouré d'éléments odorants. Mais si on regarde et qu'on se tourne aujourd'hui dans la plupart des bureaux, il n'y a plus grand-chose qui est olfactif. Là, moi, je suis ravie, il y a du bois, un parquet, on sent, on respire, tout ça. Mais sinon, c'est souvent des éléments qui sont ténus d'un point de vue olfactif. Donc, on a un peu tourner le dos et effectivement, on est revenu lorsqu'il y a eu la Covid et lorsqu'il y a eu une perte olfactive qui nous posait la question suivante. Tiens, je n'ai plus de nez, que se passe-t-il? Je ne peux plus être en contact avec aussi tout ce qui est le lien vers l'autre. Vous avez parlé de bébé, on a parlé de bébé. Eh bien, quand on a un bébé dans les bras, on le respire et ce lien est énorme. Mais aussi, toutes les odeurs d'alerte. Quand vous n'avez plus d'odorat, vous manquez d'odeur d'alerte également. Hein. Donc, le gaz, vous ne le sentez pas, c'est invisible. C'est une odeur qui vient vous percuter et vous dire « attention, là, il faut que je sois en fuite ». Si vous n'avez plus d'odorat, bien, vous restez tranquillement. Donc, un plat varié, il peut être joli à regarder, mais malheureusement, il peut être en goût mauvais et vous intoxiquer. Donc, l'odorat a repris sa place vraiment dans un milieu développé à ce moment-là.
Moi, je voulais rebondir sur ce que tu dis, qui est tout à fait juste. Il faut savoir que dans notre histoire, les philosophes aussi avaient beaucoup, dans leurs écrits, mentionné le fait que l'odorat était un sens impur, impropre, qui nous rendait en fait plus proche de l'animal. Donc, ce n'était pas la peine de le développer. Donc, en ça, on voit bien que dans les autres sens, bah, l'audiovisuel a beaucoup progressé. En fait, dans un petit peu tous les domaines, que ce soit aussi acoustique, il y a eu beaucoup de progrès. Et en fait, comme par hasard, dans l'odorat, il ne s'est pas passé grand-chose d'un point de vue scientifique. Et juste pour la petite parenthèse, c'est qu'en fait, il faut savoir que le prix Nobel de l'odorat, où on a vraiment pu comprendre qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement, hein, les capteurs, les récepteurs, il n'a que 20 ans. Le prix Nobel date de 2004. Et en fait, ce sont deux Américains qui ont mis en regard le fonctionnement de notre odorat. Mais jusque-là, on n'en avait aucune idée. Donc, c'est vrai que ça prouve bien qu'il n'y a pas eu... il y a eu un vrai retard. Le Covid a été un élément déclencheur parce qu'en fait, on s'est posé beaucoup de questions. Finalement, ben pourquoi? Pourquoi certains perdent, pas d'autres? Pourquoi certains récupèrent au bout de 3 semaines, pas d'autres? Donc, tant mieux, ça a fait avancer les choses. Et il faut savoir que quand on est adulte, on a emmagasiné 400 000 odeurs, conscients, inconscients. Et pourtant, quand on n'est pas éduqué, quand on n'a pas eu cet apprentissage, quand on n'a pas cette gymnastique, on peut en citer que 15. Donc une fois qu'on sait ce que c'est, on va dire ah ben oui, évidemment, c'est l'odeur de la poire, mais en tout cas, on n'est pas capable de le verbaliser spontanément. Donc c'est là où on voit bien qu'il y a un vrai travail à faire. C'est pas un don, on peut avoir une prédisposition, mais il y a surtout en fait cet apprentissage, et c'est pour ça qu'on s'intéresse au public les plus jeunes, parce qu'il y a tellement à apporter avec ce sens qui est aussi les saveurs.
Et donc concrètement, comment, parce qu'en... je crois que c'est vous Clémentine qui le dit, que dans le qu'il écrivait que c'est jamais perdu, on peut toujours éduquer son odorat. Donc concrètement, quelles sont des petites actions que l'on pourrait tous faire et qui permettraient justement de développer ce sens, cette faculté
de... Alors moi, j'explique...
15, ça me semble tellement ridicule. Que...
moi, j'explique souvent à mes patients, par exemple, que quand on fait une lessive, on prend le petit réceptacle, là, on met la lessive dedans, mais on ne le met pas dans le tambour. En fait, on peut prendre la lessive, la sentir, et après la mettre dans le tambour. On fait la cuisine, on peut prendre une épice et la mettre dans la préparation, ou alors on peut prendre le petit pot d'épices, le sentir, et après le mettre dans la préparation. En fait, c'est aussi ressentir les choses, ne pas être que dans le visuel, mais venir en contact. On est dans le jardin, on passe la main à un plant de tomate, hop, on sent sa main, on sent l'odeur des feuilles de tomate. Et j'ai parfois des personnes à qui je leur parle de l'odeur de la carotte et ils me disent mais ça sent rien une carotte. Bah si, en fait, si on prend une carotte et qu'on y met son nez, il y a une réelle odeur en fait de terreuse, sucrée, un peu une odeur de graines poudrées. Mais en fait, il y a un vrai descriptif de l'odeur de la carotte. Donc il y a aussi cette curiosité peut-être.
Peut-être que cette curiosité devrait venir de moi, de nous, en tant que maman ou parent, déjà, de pouvoir... alors, éduquer, c'est un mot qui me gêne un peu, mais rendre curieux, s'émerveiller, c'est quand même une chose qui nous manque foncièrement, je trouve, dans notre univers. Et c'est vrai que de prendre son enfant par la main et de le ramener au présent et au réel. Parce qu'on parle souvent de la fameuse Madeleine de Proust. Oui, en effet, que le pouvoir de l'odeur désodorant nous offre. Mais pour un enfant qui n'a pas vécu depuis si longtemps, une odeur le ramène au présent et à cet ancrage dans le réel. Or, on est dans une éducation qui ne privilégie pas du tout l'ancrage dans le présent. On va vite, on va à demain, on va au futur et non plus le réel. On est dans du virtuel, dans la vue. On ne demande jamais à un enfant, quand il arrive à l'école le matin, qu'il a couru, que c'est pas évident, il doit s'asseoir derrière un bureau, voilà, de lui dire, mais ferme les yeux, sens ta peau, comment tu te sens, comment tu respires. Et sentir, c'est aussi ressentir. Avant qu'il y ait une émotion ou avant de savoir comment on se sent, on a une sensation, du monde. Et un enfant qui est ancré dans le monde et qui est éveillé olfactivement va avoir une connaissance du monde différente de lui-même et de son voisin. Parce que, aussi, me semble-t-il, les odeurs, pour vous, Adeline, une chose va puer, et pour moi, ce sera un absolu régal. C'est génial, non ? Cela veut dire que cette subjectivité de l'odorat est sa force et sa beauté, et crée l'empathie de l'autre, et crée la tolérance de l'écoute de l'autre. Donc, comme il n'y a pas de jugement entre les, qu'on a tous des ressentis très différents face aux mêmes odorants, eh bien, on va commencer à en parler, on va commencer à partager, cette pleine conscience du monde passe par le non visible également. L'éducation, depuis longtemps, a privilégié les sens nobles que sont la vue et l'ouïe. Et pourtant, notre nez n'a pas de paupières. Notre nez n'a pas de paupières. On ne peut jamais le fermer. C'est celui qui est tout le temps, jour et nuit, en activité jusqu'au dernier souffle, comme disait Patty. Alors oui, pourquoi ? pourquoi nous ne sommes pas attentifs à ce monde-là qui nous renseigne sur beaucoup de choses, énormément de choses. C'est un langage. L'odeur est un langage. Avec les mots, on n'arrive pas à dire l'odeur. Et pourtant, on n'a pas appris non plus aux enfants que le seul langage qu'il y ait dans les animaux, enfin dans le règne animal et végétal, enfin un des plus grands langages, c'est celui de l'odeur. Quand un arbre a peur, il ne crie pas, il se parfume. Et dans ce parfum, dans ces odorants-là, il va parler. Et nous n'apprenons pas ça à l'école. Nous apprenons peut-être à nommer quelques fleurs, mais à écouter les odeurs très peu. Il me semble extrêmement important de développer ce sens-là pour s'ancrer dans le monde, dans le présent, pour les enfants. Je parle des enfants. Après, dans ce manuel, on parle des plus grands. Donc, dans les plus grands, évidemment, il y a énormément de choses à faire, comme tu as parlé des prémices des maladies dégénératives. Les premiers symptômes d'Alzheimer ou de Parkinson sont des troubles de l'odorat. Voilà. Donc, ce manuel est fait pour tous, finalement. Mais dès le plus jeune âge, si on peut faire quelque chose.
Moi, j'aime bien quand tu parles de langage, parce qu'on a envie de rebondir là-dessus, sur un sens qu'on connaît peut-être mieux et qu'on comprend peut-être mieux. Par exemple, l'audition. On est tous capables d'entendre une musique, mais par contre, on n'est pas tous capables de dire de quel accord il s'agit. Là, c'est la même chose, en fait. Quelqu'un qui a appris les accords, qui a appris la musique, il va savoir si c'est un accord de sol, un accord de fa. En fait, les odeurs, c'est pareil. C'est un langage. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a appris, qu'on l'a décrypté, qu'on l'a ancré, qu'on a en fait aussi mémorisé ce verbatim, eh bien ensuite, il y a cette même approche que l'audition. On est tout à fait capable de parler ensemble. Ce matin, on échangeait sur quelques molécules, parler d'une ionone, parler d'un acétate, de l'inalyl. Et c'est fantastique aussi de se comprendre à travers un vocabulaire que l'on peut connaître de par la chimie, les molécules. Et moi, j'ai vu mes filles en fait apprendre la chimie sans savoir ce que ça sentait. Et moi, quand je passais derrière, je leur disais, moi, ça, je peux te dire en fait que ça sent telle ou telle odeur. Et c'est fantastique de voir que des molécules en fait ont vraiment elles aussi leur sonorité en fait olfactive.
Et justement, au-delà de si je peux me permettre, au-delà des mots, il y a également tout le pouvoir de l'imaginaire. Puisque nous n'avons pas de mots pour décrire une odeur, hein, l'odeur de la rose, c'est quoi, Adeline ? On n'a pas un seul mot qui décrit l'odeur de la rose. Que ça va ouvrir un petit tiroir en soi, et en parlant de l'odeur de la rose, on va parler de soi, de son vécu. Évidemment, on le sait, l'odeur, les odorants, sont la forme la plus intense, la plus vivante, la plus vibrante des souvenirs de notre mémoire autobiographique. Je reviens aux enfants. Qu'il n'y ait pas un seul mot pour décrire une odeur. Et d'ailleurs, dans les jeux de ce manuel, nous ne demandons pas aux enfants de dire « Dis-moi ce que c'est cette odeur ». Non, on les laisse rentrer dans l'odeur. On leur demande justement pas du tout de nommer. Alors, ils vont rentrer dans l'odeur par leur imaginaire, par une sensorialité qui va faire appel à tous les autres sens, puisqu'on n'a pas de vocabulaire véritable pour les odorants. On ne sait pas, une rose, on va dire, ça sent la rose, mais ça sent quoi, la rose ? On n'a pas de mots, comme comparé à l'odeur, aux couleurs, la couleur de l'herbe, eh bien, on se connaît pas, on a le même mot là dans la tête, on n'a même pas besoin de le dire. Donc, puisqu'il n'y a pas de vérité, alors la porte est ouverte à l'imaginaire. Et les enfants nourrissent, plus un enfant nourrit son imaginaire, son émerveillement et sa capacité à être curieux, alors il devient éduqué. Pour moi, une personne cultivée, ce n'est pas quelqu'un qui a lu tous les livres de chez Mola. C'est quelqu'un...
Il n'existe pas.
c'est quelqu'un de curieux qui va venir se promener dans la librairie et qui va être curieux.
Il faut vraiment prendre le temps de sentir. En fait, là, dans ce manuel, on permet aux petits et aux adultes d'apprivoiser ce temps, de prendre le temps lorsque l'on sent une odeur. On est à l'inverse des autres jeux où on va devoir donner la réponse. Là, l'idée, c'est qu'est-ce que je ressens face à cette odeur? Quelles sont mes sensations? Et donc, ce livre qui est extrêmement pratico-pratique, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'être parfumeur, ni d'être évaluateur, ni d'être olfactothérapeute pour tourner les pages. Il s'agit de découvrir dans le quotidien. J'ai de la menthe chez moi, eh bien je vais couper les feuilles de menthe, je vais froisser ces feuilles de menthe et je vais les faire découvrir à ma fille, à mon mari, à tout le monde. Et donc là, l'idée, c'est de donner envie à tout un chacun d'aller puiser des aventures olfactives qui sont en fait des aventures de terrain. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise odeur dans notre métier. Voilà. Il s'agit simplement d'être tolérant par rapport à ce qui est senti et ressenti. Surtout que là, autour de nous, on n'a pas le même sens olfactif. C'est comme la vue, vous voyez, toutes les deux, on a des lunettes, vous deux, vous n'en avez pas. Si je les enlève, je suis capable de vous voir. Par contre, de descendre les marches, peut-être un peu moins. Eh bien, au niveau du nez, moi, j'ai constaté que vous avez des personnes qui ont un nez très, très fin. Et d'autres, c'est plus compliqué. Il faut mettre une concentration plus forte ou prendre plus de temps pour sentir. Et là aussi, j'ai pu constater que ceux qui se préparent à découvrir ou à apprivoiser leur odorat petit ont beaucoup plus de facilité. Ensuite, adultes. Et lorsque, malheureusement, dans la vie, on peut avoir des soucis, eh bien, on se rend compte que ce nez peut venir au secours des soucis, puisque c'est l'intuition qui est réveillée.
Et c'est vrai que dans ce manuel, alors qu'on parle des petits, des enfants et tout le travail qu'on peut faire avec eux, mais les adultes, on parlait tout à l'heure de la presbytie, on connaît tous, hein, à partir de 40-45 ans, voilà, il va falloir avoir des bras plus longs, une paire de lunettes, et on a la solution. En fait, il existe aussi la presbyosmie. La presbyosmie, c'est la même chose, en fait, c'est le sens de l'odorat qui va décliner petit à petit, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. En fait, ça se fait de manière, ça va s'étioler sur quelques années, des fois même plus que 10 ans. Et puis un jour, on s'aperçoit que ben, on sent plus si bien que ça, on n'a plus tellement les saveurs. La chance que l'on a, c'est que nos neurones olfactifs, en fait, c'est le seul site de neurogénèse du corps humain. Ça veut dire qu'ici, à la base du front, on a l'épithélium olfactif et ces neurones, ils vont se régénérer toute la vie, entre 6 à 8 semaines. Ça veut dire que si on les stimule, si on les booste, si on leur propose, en fait, des odeurs en conscience, eh bien, en fait, l'odorat, on ne le perdra jamais. On sentira toute notre vie. Un parfumeur, en fait, sent toute sa vie. Donc, ça veut bien dire qu'on a cette grande chance, si on en prend conscience, que l'on soit petit dans l'éducation, mais aussi plus tard, de comprendre qu'avec des petits jeux, comme propose ce manuel, si on a ce regard que sentir en conscience, c'est pas pareil que sentir dans la vie de tous les jours, dans une expérience. Là, il y a ce côté analytique d'aller quand même un tout petit peu se poser dessus. Et ça veut dire que ben, on ne perdra jamais l'odorat et donc on ne perdra jamais les saveurs. Et ça, avec 3 repas par jour, ben, c'est beaucoup plus de plaisir quand même.
Alors, tout ce que vous j'ai plein de choses qui me sont venues, évidemment, vous écoutant. Je vais essayer d'être concise. Alors déjà, je vais peut-être revenir sur ce langage. Ce langage qui n'est pas commun, enfin les adjectifs qui définissent l'odeur. Ça m'a fait penser, moi j'habite en ville, une ville où il y a un peu de verdure. On a l'habitude d'aller au parc et un beau jour, mon fils qui devait avoir 5 ans m'a dit, en quittant la maison, donc plutôt dans la rue, m'a dit ça sent le Blouvent. Alors le Blouvent, c'est un faux nom en plus que nous avons donné à une partie du parc. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ça sent le Blouvent, pour moi, ça sentait l'humidité, le caca de chien et l'herbe coupée. Soit dit en passant, l'herbe coupée est donc un signal d'alerte de l'herbe qui dit, attention, il y a un prédateur, enfin la tondeuse, quoi. J'ai appris ça, je trouvais ça trop génial, je l'ai dit à tout le monde. Donc ça sent, voilà, ça sent donc cette odeur un peu automnale, je dirais, de feuilles en putréfaction, tout ça. Et en même temps, Donc j'ai mis des mots, ça sent ce que je viens de vous dire, mais en même temps, je n'ai pas donné de définition de cette odeur. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, parce qu'entre nous, c'est entré dans le langage, ça sent le blouvant, ça existe. Mais évidemment, si je vous dis ça, ça ne vous parle pas. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à communiquer? Est-ce que ça, ce n'est pas une des difficultés du fait que la manière dont on définit les odeurs est quand même très personnelle? Puisque vous le dites, c'est une mémoire olfactive, donc une expérience personnelle. Est-ce que le fait d'avoir du mal à en parler entre nous, en dehors des molécules, mais ça, c'est pour vous, est-ce que ce n'est pas un frein, justement?
Pour moi, pas du tout, justement. Si on avait le même langage sur l'odeur du parc, on serait toutes les trois en train de dire « bon, bah, ça sent la crotte de chien, le truc. » Là, c'est différent. C'est son lieu de promenade. Eh bien, une autre personne dira « ben moi, mon parc, il sent pas du tout ça. » Et là, la discussion va s'enrichir. Et pour moi, c'est un peu comme les cuisiniers ou les Français. Quand on commence à parler bouffe, on ne s'arrête pas. Et on n'a pas du tout parfois les mêmes... Alors, les Italiens veulent faire le pesto avec le mortier en marbre, les autres, oui, mais et là, on commence à en parler. Et c'est ce qui fait la richesse du discours. Parce qu'on n'a pas le même langage, on va essayer de décrypter la sensation de l'autre par son histoire. Alors, c'est beaucoup plus riche, me semble-t-il, le fait qu'on n'ait pas le même langage. Non, je me trompe ou...
Oui, complètement. Et je dirais même, on va au-delà, si vous habitez le nord de la France et le sud de la France, on n'a pas les mêmes vécus. D'autres vont s'alimenter plutôt avec de la crème fraîche, du beurre salé ou autre. D'autres, c'est l'huile d'olive. Donc, comme tout est lié aussi d'un point de vue alimentaire, hein, on l'a dit tout à l'heure, on a aussi un langage qui parfois va s'appuyer sur le ressenti alimentaire. C'est une odeur qui est un peu grasse, qui est un peu épaisse, qui est un peu écœurante ou qui est un peu fruitée, même si elle n'est pas. L'objectif, par rapport à votre exemple, c'est d'être à l'écoute de vos sensations. Et voyez, ce qui est intéressant, ce que disait Clémentine, c'est je suis obligée d'écouter votre sensation pour essayer de décrypter ce que vous avez ressenti. Donc, il n'y a aucun jugement. Vous avez ressenti cela. Je suis à l'écoute et à la fois presque curieuse d'aller sentir ce fameux moment de parc. Mais ça permet d'avoir une tolérance. C'est un sens qui nous oblige à être un peu dans la tolérance, dans l'écoute. Dans un monde aussi rapide que le nôtre, je pense que ça vaut la peine d'être attentif. Et en fait, cette description que vous venez de faire, eh bien, je me suis dit, oh, ils ont vécu quelque chose d'assez étonnant tous les deux, parce qu'ils ont, en peu de temps, perçu presque une formule olfactive. C'est-à-dire, vous avez pu nous dire, il y avait ça, puis ça, puis ça, puis ça, et tout ça donnait un mot. Donc, vous avez créé une formule presque à vous tout seul. Bien, moi, je ne la connaissais pas, mais je me suis dit, ça, c'est très intéressant. Déjà, ça donne un peu une balade bucolique dans votre territoire, mais parce que je vous ai écouté.
L'autre chose qui m'est venue aussi, un peu dans cet ordre d'idées, et en partie parce que j'ai lu, vous avez dit tout à l'heure, ça sent bon, ça sent pas bon. C'est chacun son ressenti, bon, ça, aucun problème. A priori, on s'accorde tous à dire que la crotte, ça ne sent pas bon. Et en même temps, comme expliqué dans le livre, si on nous a pas dit bébé, ah bah caca, touche pas, on pourrait trouver que la crotte, ça sent bon.
Mais elle sent bon. C'est-à-dire, imaginez, je me permets, parce que j'ai lu en plus, tout à l'heure, il y a un livre sur différentes crottes chez Mola, donc je feuilletais et j'imaginais les odeurs. Si vous vivez à la campagne, vous avez été élevé près d'une ferme, que votre mamie vous emmenait dans les tables, qu'il y avait ces différentes odeurs de déjection, et vous avez un magnifique souvenir de votre grand-mère. Je vous fais sentir là tout de suite cette odeur-là. Vous avez une reliance immédiate avec votre grand-mère et ce moment heureux. Et là, vous allez trouver ça fabuleux. Moi, j'ai fait l'expérience, et vous, vous le faites aussi, vous faites sentir l'odeur de l'essence. Une personne qui vit en plein Paris, ou une odeur de métro, etc., ils vont dire « Ah ouais, attends, mais ça me rappelle telle station de métro, ça rend trop bien !» Parce que c'est son vécu. Donc, il y a une mémoire du vécu avec un côté intéressant, peut-être le premier baiser qui s'est fait là, cette odeur. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise odeur. Il n'y a uniquement un souvenir qui va déclencher l'émotion reliée avec cette odeur. Quand on dit une personne âgée, j'ai souvent entendu dire ça dans les EHPAD ou autres, faut faire quelque chose parce que vraiment... elles sentent mauvais. Je vais vous donner un exemple qui est très cru, j'en suis désolée, mais puisqu'on en vient dans cette région intime du corps, quand vous êtes dans les toilettes, qui généralement c'est entre 2 mètres carrés, 2 ou 3 mètres carrés, et que vous avez fait un bon repas, mais que vous avez des douleurs au niveau du ventre, et que là vous êtes enfermée toute seule dans vos toilettes. Est-ce qu'on a déjà retrouvé quelqu'un évanoui seul dans ses toilettes par l'odeur ? C'est la sienne. Le corps humain est tellement bien fait, c'est que les odeurs pestilentielles qui viennent de votre corps une méga tolérance, c'est à vous. L'odeur de la sueur de votre mari, l'odeur de la déjection de votre bébé. Moi, demain, je vais changer un bébé que je ne connais pas, je vais être là. Oh. Mais quand c'est mon petit-fils, je dis, oh, regarde, il a bien mangé aujourd'hui. Parce que ça ne va pas me gêner. Il y a vraiment cette tolérance et cet amour inconditionnel. Vous êtes en harmonie avec votre corps, votre propre sueur, parfois vous n'êtes pas capable de l'identifier. Et j'apprends souvent dans les EHPAD à dire attention, ils ne sentent pas leur propre odeur. Donc apprenez-leur à dire là, quand vous avez une odeur qui est présente, réfléchissez, peut-être que vous avez fait sur vous, appuyez sur le... Parce que pour eux, eh bien, on redevient bébé. Et c'est une odeur qui est familière, c'est la vôtre. Donc, je ne la sens pas. Le cerveau a, on va dire, pas bloqué, mais a permis que la soi-disant mauvaise odeur devienne tout à fait supportable.
Ce qui est étonnant aussi dans les ateliers pour les enfants, parfois, on amène des mauvaises odeurs. Et à la fin de l'atelier, on leur dit, bon, alors, c'est quelle odeur que tu as préférée ? C'est souvent la mauvaise odeur. Voilà. Ça peut être un poisson pourri, une crotte de chien, justement, dans un petit pot, voilà. Et c'est ce qu'il préfère. Ah, celle-là, j'ai adoré. Et il rit énormément. Et pourtant, on leur explique aussi l'histoire du gaz, de que leur nez est un sens qui va les avertir s'il faut manger cette crotte de chien ou pas. Donc, ils sont très attentifs à ça. Mais qu'est-ce qu'ils se marrent ? Ils ne sont pas justement... Oui, on leur a dit que le caca puait. Eh bien, pourtant, dans ces ateliers-là, ce sont les odeurs qu'ils préfèrent. C'est celles qui les fait les plus marrer. Moi, je suis souvent surprise.
Est-ce que ce n'est pas justement une façon de braver, de cette manière, cette phase, fameuse phase pipi-caca qui dure...
Peut-être, peut-être. Mais je pense que c'est une forme d'attention aussi. Peut-être que la peur, là, ne se transforme en... Un rire un petit peu avec une peur cachée, je ne sais pas. C'est une manière de comprendre les choses, de rire.
Aussi, dans la création de parfums, très vite, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises odeurs parce qu'on se sert beaucoup des mauvaises, entre guillemets. Et c'est vrai qu'un parfum, par exemple, dans lequel on va mettre un petit peu de civette, un petit peu d'iracéum, un petit peu de castoreum, mais en fait, c'est ce qui va faire toute la beauté du parfum parce que cette soi-disant mauvaise odeur va pousser toutes les autres et les embellir. Donc, il y a des parfums, je pense à Chalimard, on sait que souvent, il y a un petit peu d'une civette, par exemple. Si on retirait cette matière première, on aurait l'impression que le parfum est fade et un peu passé. Donc, on a aussi besoin de ces odeurs-là pour, en fait, amener une espèce de tension et finalement, qui permet de pousser toutes les autres et de faire comme un exhausteur, en fait.
J'ai tellement de pistes là que je ne sais plus. Alors, je vais essayer d'être concise aussi, mais en même temps, c'est une vraie question. Comment on fabrique une odeur ? comment vous faites? On vous demande un parfum.
Une odeur ou un parfum?
Une odeur. C'est ça. Parfum, encore, c'est, il me semble que c'est moins. Mais donc là, vous parliez d'un hôtel. Fabriquer une signature olfactive. Comment vous y prenez? Parce que, en fait, je n'imagine pas du tout ce que vous faites. Hein.
Alors, dans le métier de la création, on va d'abord écouter. Écouter notre client, écouter son intention. Et son intention peut passer par énormément de choses. Donc, c'est décrit dans un brief où il va nous dire la cible, beaucoup d'adjectifs quand même. Je veux quelque chose de l'atmosphère cocon ou justement je veux provoquer de la peur. Ou alors je voudrais une odeur très particulière. On va d'abord avoir ce temps d'écoute. Et pour moi, le parfumeur est un interprète des mots en partition olfactive. C'est-à-dire que chacun de ces mots, chacune de ces intentions, chaque brief va être traduit en partition olfactive. Et le parfumeur connaît des multitudes de molécules. Évidemment, c'est quoi une odeur? Là, il y en a plein, tout autour de nous. On ne voit pas, on ne peut pas toucher, c'est transparent, c'est impalpable. Mais juste là, autour de notre table, il y a peut-être des centaines d'odeurs. Alors évidemment, moi, en tant que parfumeur, je ne peux pas toutes les capter non plus. Je n'ai pas un nez d'éléphant. Le nez de l'éléphant, l'épithélium, est gigantesque. Mais plus j'éduque mon nez, plus je le muscle. Je muscle plutôt mon cerveau, puisqu'on sait que l'odeur a un lien direct avec les cerveaux limbiques et le cerveau émotionnel. Plus je développe ma mémoire, plus je vais connaître toutes les particules, les molécules, pour pouvoir recréer des odeurs. Donc d'abord, c'est une écoute particulière. C'est écouter les mots, savoir les traduire en passant par un labyrinthe extraordinaire où le parfumeur peut se perdre. Heureusement qu'il y a des évaluateurs et des évaluatrices qui nous font retrouver le chemin quand on est perdu. Mais nous avons dans notre cerveau une connaissance qui fait qu'on peut réécrire. C'est comme une partition de musique. On nous dit, tiens, écris-moi une musique mélancolique, romantique, en ternaire, en majeur, en mineur. Ben voilà, c'est alors simple. C'est un mélange de grandes techniques et de grande créativité. Et de grande errance.
Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que souvent, lorsque l'on a un cahier des charges, parce que le brief étant un cahier des charges, la personne qui est face à nous n'a aucune compétence olfactive. Donc, s'il décrit, je vais vous donner un exemple tout simple, j'aimerais un parfum jaune. C'est quoi un parfum jaune? Voilà. Et donc là, l'idée, c'est aussi, parce que dans ces maisons de parfumeurs, on n'est jamais seul, on est nombreux, des évaluateurs, des parfumeurs, des assistants, ceux qui s'occupent de la partie juridique, ceux qui vont sourcer les odeurs dans le monde entier, c'est une entreprise, une grosse entreprise. Eh bien, on va se poser la question, mais qui est cette personne qui nous donne le brief? Est-ce que c'est Mauboussin? Alors, le jaune chez Mauboussin, c'est quoi? Ah, il est joaillier, ok. Serait-ce proche d'une citrine? Quelle est? Oui, on commence à essayer de comprendre l'autre. Vous voyez, on reparle encore d'écoute et de tolérance, de comprendre quel est son univers. Et ensuite, on décrypte cet univers jaune pour éviter de se perdre. Ah ben non, c'est pas de la vanille qu'il veut. Parce que jaune, ça pourrait être la vanille, un citron, un pamplemousse, une bergamote, je ne sais quoi. Mais là, l'idée, c'est d'être dans l'univers de l'autre pour mieux répondre à la demande de l'autre. Une fois que les parfumeurs créateurs ont fait leur chemin, les évaluateurs et autres vont sélectionner, et ça c'est un partage de compétences, pour faire sentir les flacons ou les pistes réalisées à, on prend un exemple, Mauboussin ou je ne sais qui, ou Mola. demain Mola souhaite faire des jolis produits pour accompagner les livres, ce serait fabuleux d'ailleurs. Respirer et lire le soir, ce serait fabuleux. Eh bien, l'idée, c'est qui est Mola ? L'histoire de Mola ? Quels sont les ouvrages et toutes ces aventures que l'on pourrait créer ? Eh bien, là, on serait à l'écoute de Mola. On se perdrait toutes les trois à aller dans les dédales des rayons pour dire, OK, là, on a pris le pouls de Mola. En tant qu'évaluateur, on saura quoi créer avec les parfumeurs.
Aussi, juste pour ajouter, c'est qu'on fait peut-être pas c'est pas le même travail de faire le parfum de quelqu'un que de faire une olfactisation de lieu. C'est vrai que le travail est le même en soi, mais c'est vrai que l'attente n'est pas la même. Pour une personne, on va vers ce qu'on aime, ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la palette de ce que l'on apprécie, quelqu'un va adorer le patchouli et une autre personne va le détester. Donc, quand on olfactise un lieu, on va quand même plus vers des odeurs qui, globalement, sont plus, consensuelles. On va moins, peut-être, sur des matières qui vont être clivantes. On va essayer de trouver un univers qui va peut-être plaire au plus grand nombre.
Je vais conclure. Après, la question que je m'étais dit, peut-être je pose au début, mais je vais la poser à la fin. Quand est-ce que vous avez su que vous travaillerez, que vous feriez de l'odorat, votre métier ? Est-ce que ça a toujours été une évidence ou est-ce que c'est venu plus tard ? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça vous passionnée ?
Alors moi, je suis une fille unique et bien malheureuse d'avoir été une fille unique. Et petite, ma meilleure amie était ma pince à cornichons. Et donc, je sortais avec ma pince à cornichons, toute petite, et je prenais cette pince à cornichons pour découvrir la nature. Et je prenais avec cette pince les objets et je sentais. Je pense que le mot parfumeur, pour moi, n'a pas de sens. C'est plutôt le monde olfactif, éveil olfactif. Donc, à cette époque-là, on ne parlait pas de devenir conseiller en odeur ou autre. Hein. C'était faire un métier, j'aurais pu être cuisinier, vous voyez. Mais c'était le lien même avec la nature, l'appel à la nature et la curiosité de la nature. Et c'est à ce moment-là qu'autour de moi, ils se sont dit, cet enfant ne restera pas dans un bureau plus tard, et elle sera... J'aurais été très mauvaise, j'étais pas si bonne que ça en cours. Il fallait absolument que je sois toujours dehors à découvrir la nature. Donc moi, ça a été... J'imagine que si un enfant lit cet ouvrage et demande à ses parents de froisser les feuilles, d'aller à la découverte, ça peut être un indice.
Alors moi, petite, mon papa en fait était un féru de brocante, et tous les dimanches matins il m'emmenait faire les brocantes. Lui, il cherchait l'argent massif et moi ça m'ennuyait profondément. Donc j'ai cherché sur les brocantes qu'est-ce qui pourrait bien m'intéresser pour y aller tous les dimanches. Et donc c'était à l'époque, dans les années 80, des petites mignonnettes de parfum. Donc il y en avait partout à l'époque, ça se donnait très facilement. Et donc j'ai commencé à en collectionner, j'en avais 2, 5, 10. Et je m'amusais à les sentir, en fait, sans regarder les flacons, pour pouvoir nommer que celui-là, c'était Rive Gauche d'Yves Saint-Laurent, ça, c'était Poison de Dior. Et donc, inconsciemment, j'ai éduqué mon nez comme ça, en fait, dans ce monde qui me parlait tellement, qui me procurait énormément d'émotions. Et je savais pas en fait que c'était un métier. Je n'avais aucune notion. J'ai pas grandi dans une famille pour qui on m'a jamais raconté que ça pouvait être une possibilité. Et ça m'est revenu vraiment beaucoup plus tard en fait. Dans tous les métiers que j'ai fait, il y a toujours eu en fait un lien avec l'olfaction, l'olfactif. Et puis un jour, ça m'a appelé. Et c'est avec Clémentine que j'ai fait mes premières formations. En parfumerie, et qui était la formation sûrement la plus généreuse qui existe dans ce qu'on peut espérer dans ce domaine-là.
Donc aussi une vocation de transmission.
La transmission est très importante, oui. On est des mortels, donc autant transmettre nos connaissances. J'aurais rêvé, moi, petite, à voir que ma mère m'achète ce manuel. J'en aurais rêvé. ou de jouer avec ma grand-mère avec. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert l'odeur, les odorants, le monde odorant, en m'ennuyant. Je me suis emmerdée terriblement. je suis née à Manosque et ma grand-mère était peintre. Et c'est long de peindre un champ de lavande. Et elle m'amenait et j'attendais et je m'ennuyais. Et comme j'étais petite, et donc mon nez était assez proche de la terre et que cette terre provençale est très odorante, eh bien c'est comme ça que je me suis intéressée à cette terre qui craquelle et ces cigales qui pètent et puis cette lavande qui me fruitait les narines. Et j'ai commencé, je n'avais rien à part la terre pour m'amuser. Et c'est dans l'ennui que j'ai collectionné. Mais mon chemin dans la sensorialité n'a pas commencé par l'odeur. Elle a commencé par les sons, la musique. J'ai d'abord fait une carrière de musicienne classique. Et après avoir étudié, éduqué, éveillé mes oreilles pendant 30 ans, je savais que la vie était courte. J'ai voulu éveiller mon nez, qui n'est pas très loin des oreilles, on va dire. Et c'est cette sensorialité qui me passionne et qui, pour moi, me donne de la beauté dans la vie. Et j'ai énormément besoin de beauté.
On a tous besoin de beauté. Merci beaucoup, c'est passionnant. Ça donne envie d'ouvrir grand, grand, grand les narines quand même. J'ai le sentiment d'avoir tout remis à sa juste place en vous lisant. Et merci pour toutes ces réponses. Et on aurait encore beaucoup à se dire.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à toi.